professeur à Sorbonne qui vient de Valparaiso et qui enseigne à l'université catholique. Il est professeur de philosophie médiévale. Et je pense que le sujet qu'il va nous traiter nous intéressera énormément, non seulement pour les idées intellectuelles, mais aussi dans la pratique, l'application pratique. En relisant la traduction et la personne qui a traduit ou ceux qui ont s'occupé de la traduction étaient très intéressés justement par ces perspectives que va nous offrir le professeur. Je lui laisse donc la parole.
Cher Père, Monial, Mesdames, Messieurs, je veux remercier votre invitation, mais vous n'avez pas de chance ce matin parce que le Père Rupin a dit que son français est pauvre et le mien est original. L'originalité est une valeur, mais pas la mort entre les traditionnalistes, n'est-ce pas? Je ferai un effort, je crois que vous comprendrez. Les droits de l'homme dans le cadre du magistère et de la philosophie. La conscience perplexe. Le 23 avril 1791, Saint Sainte-Thé Pie VI s'adresse aux évêques du sud de la France pour réprouver les tristes événements d'Avignon. Ce bref est connu sous le nom de Adeo Nota. Il est regrettable que le pape considère que le thème qu'il va traiter est tellement connu qu'il ne fait que l'aborder succinctement. Au point 13, et parmi d'autres points bien connus, il émet le jugement suivant. Je fais une citation ici. Il suffit de se souvenir des 17 articles repris dans les droits de l'homme exactement comme ils ont été expédiés et proposés dans le décret de l'Assemblée de France, c'est-à-dire les droits qui vont à l'encontre de la religion et de la société. Fin de la citation. Quelques lignes plus loin, il ajoute : comme nous ne pouvions en aucune façon accepter de telles délibérations, et que nos collaborateurs qui en sont chargés les appliquent, l'Assemblée représentative mit des huit en évidence cette folle ardeur de la rébellion. Fin de la citation. Il est clair que les souverains pontifes ne pouvaient soupçonner que ces droits, contradictoires à la religion et à la société, allaient, des siècles plus tard, être reconnus comme les fondements de la morale, guidant toute société, et ce, par ses successeurs sur le trône de Saint-Pierre. En effet, c'est à partir du concile œcuménique de Vatican II que les Saint-Sièges s'en est fait les rangs défenseurs et propagateurs. Il serait fastidieux de dresser une liste de tous les documents et discours qui en témoignent. C'est pourquoi je pense que tout catholique qui se souvient quelque peu de l'histoire de son Église doit, au moins sur ce point, se trouver dans son état de perplexité et d'angoisse dont il convient de se libérer. Afin d'essayer de contribuer à ce soulagement, il paraît opportun de déterminer la nouvelle théorie qui régit les droits de l'homme, et ensuite de faire quelques distinctions qui nous éclaireront les sujets. La nouvelle doctrine. À partir de la Pacem Interis de Jean XXIII, le magistère pontifical s'est peu à peu éloigné de la vision traditionnelle si bien exprimée par Isis. Ce thème a même été incorporé dans les trois canons. À dire vrai, que l'ordre juridique insiste sur le respect des droits n'est nullement une nouveauté. Le côté révolutionnaire réside dans les caractères des principes premiers de toute la moralité auxquels ces droits ont voulu prétendre. Cette prétention démesurée a été confirmée par la Commission internationale de théologie dans son document « Dignité et droits de la personne humaine » rédigé après des années d'études, 83-84. Parmi les soi-disant droits de l'homme, la nouvelle doctrine commence pour distinguer trois niveaux. Fait totalement nouveau, tout en précisant que seulement le tout premier est absolu et inviolable, comme s'il s'agissait du premier niveau de la loi naturelle. Il s'agit ici des droits à la vie, à la dignité, à la réalité fondamentale, à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce document signale ensuite qu'il y a trois conceptions différentes. Une athée, qui fait consister toute la dignité de la personne en son autonomie. Une autre théiste, qui admet une autonomie relative. Et la troisième vient de l'histoire du salut, à travers l'incorporation des hommes en Jésus-Christ. Malheureusement, comme fondement de cette thèse, on se limite à citer « Raudum et Spes », qui en général, dans les lieux indiqués par ses travaux, n'est-ce pas, se réfère à d'autres termes et on omet de mentionner les auteurs qui soutiennent de telles interprétations. Dans ce document, en recherchant les fondements de ces conceptions, on reconnaît qu'il ne se trouve pas repris dans la Sainte Écriture, quoi qu'on suppose qu'on les en puisse déduire, qu'on ne les rencontre pas non plus dans la tradition dont il n'est nullement fait mention. Les seules citations sont celles du magistère actuel, et en particulier la constitution pastorale Audium et Spes. Les véritables fondements se trouvent dans les paragraphes 22 de la dite constitution. J'ai fait une citation. La nature humaine ayant été assumée en lui, le Christ, et non détruite, par ses faits, elle a été élevée pour nous aussi à une dignité suprême. Ainsi, le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est-il uni en quelque sorte à tout homme. Fin de la citation. Cette conception de la rédemption semble justifier diverses thèses que nous relevons au passage. Tous les sons sont enrichis de la dignité des fils adoptifs de Dieu, Ce sont mots de la déclaration, n'est-ce pas? Tous le sont. Par sa croix et sa résurrection, le Christ donne aux hommes un accès plus facile à la participation de la vie divine. C'est donc le Christ le communique à la nature humaine rachetée. Son passage de la mort à la résurrection est aussi un nouveau don qui se communique à tous les hommes. Selon ce document, nous pouvons conclure que, une autre citation, l'Évangile donne un nouveau fondement religieux, spécifiquement chrétien, à la dignité et aux droits de la personne, et ouvre aux hommes de nouvelles perspectives de plus en plus sombres, en les considérant comme des véritables fils adoptifs de Dieu et comme des frères dans le Christ crucifié et ressuscité. Fin de la citation. Première distinction. Si nous considérons les rois proclamés sous les diverses formules utilisées par les gouvernements depuis le XVIIIe siècle à ce jour, nous relevons une série de biens que la société est présumée devoir assurer à ce sujet. Il s'agit fondamentalement de préserver la propriété, la liberté d'action des citoyens et leur sécurité physique. À première vue, rien de particulier n'attire l'attention et il n'y aurait aucun inconvénient à accepter cette énumération. Datos non conches. On comprend, n'est-ce pas? Bien. En fait, comme l'a démontré le docteur Roussman, les principaux biens énumérés étaient préservés aussi bien dans les rois romains que médiéval. De telle sorte qu'affirmer qu'avec ces déclarations commence la reconnaissance juridique de ces rois n'est qu'une pure calomnie. Cependant, comme l'explique très bien le docteur Roussman, l'important n'est pas l'énumération, mais bien son acception juridico-philosophique ou mieux encore son fondement éthique et social. Il s'agit des biens privés, quoique personne ne les appelle ainsi, compris comme des droits absolus et inaliénables auxquels tout individu a droit, par le seul fait d'être une personne. Exception faite, bien entendu, des êtres humains qui n'ont pas encore abandonné les aînés maternels. Si bien que toute société est jugée sur sa capacité d'en assurer le respect. Dans ces déclarations, on ne distingue jamais différents niveaux, comme le fait la Commission internationale de théologie. Aussi faut-il comprendre que tous ces droits sont réellement absolus et inaliénables, ce qui est totalement illusoire pour beaucoup d'entre eux, vu qu'ils opposent facilement les uns aux autres. Il faut bien préciser que nous ne faisons pas référence au contenu, c'est-à-dire au bien, dont chaque citoyen est supposé pouvoir disposer, mais bien à la théorie qui soutient cette affirmation. Deuxième distinction. Beaucoup pensent que les rois de l'homme sont assurément la jouissance des biens propres à l'individu, bien sans lesquels notre vie se verrait rarement affectée. Qu'en est-il du bien commun, absent notoire de ces déclarations? Dans la pensée catholique personnaliste, je veux dire Maritain et ses disciples. Le bien commun est le bien propre de la société et pas de l'homme. Il est vrai qu'elle requiert tel bien, mais il faut préciser qu'il est subordonné à la personne. Ce qu'il y a de plus parfait dans la nature tout entière. Cette dernière phrase est de saint Thomas. Il y a de cela plusieurs années, Charles de Koning réfutait cette erreur qu'il trouvait extrêmement pernicieuse. À ce sujet, il rappelait une très belle doctrine de saint Thomas d'Aquin, doctrine dont la seule compréhension suffit à réfuter cette erreur. Voyons-la rapidement. Deuxième livre de Contra Gentes, chapitre 24. Il faut d'abord préciser que saint Thomas veut démontrer que les êtres qui n'ont pas de connaissances désirent et aussi accéder au bien et en dernière instance à Dieu lui-même, bien suprême. Selon sa théorie qui affirme que tous les corps terrestres dépendent des corps célestes mis par les anges, il est très facile de transformer ces corps en instruments soumis à leur fin, comme la flèche atteint la cible choisie par la chair. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa compréhension analogique, potes atypi multiplicita, dit saint Thomas, des biens propres, bonum suum, de chaque être. Saint Thomas distingue quatre biens propres. En premier lieu, celui qui lui correspond en tant qu'individu, ratione individuum, c'est-à-dire sa perfection individuelle. En ce sens, il donne l'exemple de l'animal qui désire son propre bien quand il recherche la nourriture qui lui permet de survivre. Deuxième, parce que l'individu appartient à une espèce à laquelle il est subordonné, il lui revient un autre type de bien, supérieur au précédent, par exemple les enfants. Pour mieux comprendre la pensée de saint Thomas, ne pensons pas à l'espèce de façon abstraite, mais plutôt à toute une population, comme le font pour quelquefois les biologistes. La supériorité de ces biens fait que, naturellement, tout individu préfère les biens propres de son espèce à son bien particulier. Pour cela, il est enclin à sacrifier sa vie pour la communauté. On se doit donc de conclure que le bien de l'espèce est pour l'individu un bien supérieur à son bien particulier, puisque, dans le cas contraire, son sacrifice serait antinaturel. De fait, tous les peuples valorisent cette attitude en leur héros, et nous les faisons en nos martyrs. Si le bien commun n'était pas supérieur au bien privé, le fait qu'une personne sacrifie sa vie serait injustifiable. Par conséquent, le droit à la vie ne peut être absolu, comme le prétend la Commission internationale de théologie, et tous les peuples, quand ils raisonnent librement, l'admettent. Troisième. À leur tour, les espèces appartiennent à des genres, en vertu de quoi l'individu aspire à d'autres biens encore plus supérieurs. Saint Thomas nous donne ici l'exemple de ce genre équivoque. Comme les îles, suivant l'astronomie qu'il connaissait, nous pourrions faire référence à l'écologie et parler d'habitats, de milieux ambiants, d'écosystèmes nécessaires à l'existence de tout être vivant. Rappelons que pour les docteurs angéliques, les astres sont mis par les anges, comme cette capacité d'aspirer à un bien supérieur au bien des espèces et de les considérer propres consciemment appartient aux substances spirituelles, elles peuvent en conséquence guider ces espèces vers la recherche de tels biens. Quatrièmement, finalement, survient un bien propre en vertu de la ressemblance d'analogie des principes par rapport à leurs principes. En ce sens, on peut dire que tous les êtres tendent à Dieu comme à leur bien propre. Saint Thomas nous explique que la nature de chaque être, en particulier, recherche non seulement son bien particulier, mais aussi les biens communs, et davantage encore les biens universels, absolus, liés de manière spéciale à la perfection de cet être. De telle sorte qu'il affirme que plus un être est parfait, et plus il tend à un bien plus commun et plus universel. Aussi, pouvons-nous conclure avec saint Thomas. Une citation. La nature revient sur elle-même non seulement en ce qui lui appartient de par sa singularité, mais bien plus en ce qui lui est commun. En effet, chacun tend à conserver non seulement son être individuel, mais aussi son espèce. Elle a une plus grande inclination naturelle vers les biens universels absolus. Comme de Koenig l'explique très bien, les personnalistes n'ont pas compris les docteurs communs. Par contre, ils ont, sans s'en rendre compte, adopté la vision socialiste du bien commun, selon laquelle il est étranger à la personne prise séparément pour n'appartenir qu'à la société. En conséquence, il les voit comme un bien étranger et non pas propre. En réalité, c'est le meilleur des biens propres et l'appétit qui lui correspond tient sa racine dans les singuliers, comme le montre si bien saint Thomas, dans les lieux cités et bien d'autres qu'on pourrait ajouter. Nous ne nous laserons jamais d'insister sur le fait que les individualistes tombent dans une erreur impardonnable lorsqu'ils opposent la primauté de la personne à celle des biens communs. Puisque les biens communs s'opposent aux biens privés, mais jamais à la personne. Tout comme les biens privés, les biens communs et un bien de la personne, mais qui ne lui correspond pas en vertu de sa singularité, mais bien en vertu de son appartenance à une communauté. Justement, la personne s'intègre à la communauté parce qu'en elle uniquement, elle peut accéder à des biens plus élevés, c'est-à-dire aux biens communs. En fait, lorsqu'il parle de la perfection de l'homme, raison de son appartenance à la société, il semble oublier qu'elle se réalise dans la contemplation de Dieu. Et Dieu, bien sûr, ne peut être le bien privé des personnes. C'est pourquoi, si l'on comprend bien le caractère social de la personne humaine, on saisit qu'il consiste à ce que la perfection s'obtient uniquement dans le bien commun et jamais dans le privé. Troisième distinction. Plus d'une fois, nous avons été surpris au cours de discussions particulièrement animées, durant lesquelles nous défendions une doctrine traditionnelle d'entendre un interlocuteur sortir sa pire insulte. Te crois-tu seul détenteur de la vérité? Le libéralisme a imprégné notre cerveau à un degré tel que nous sommes incapables de distinguer la possession du bien privé sur celle des biens communs. En effet, celui qui possède un bien privé en est son unique propriétaire, et celui qui jouit du bien commun en est son esclave, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est pourquoi il me semble que les meilleures que jamais exprimées une personne humaine seront les paroles suivantes. Jésus, l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Ce langage nous semble tellement obscur qu'il est bon de l'illustrer par un exemple. L'homme aspire à mon bien, commun de différentes sortes. La première de ceci étant, dans certains points de vue, le langage, sans lequel il n'accède ni à la pensée ni à la culture. Mais pour pouvoir maîtriser une langue, il faut devenir l'esclave de celle-ci, c'est-à-dire se soumettre à ses règles. Si bien que la personne qui s'exprime le mieux est celle qui s'attache le mieux à ses règles. Que la règle soit logique ou non n'a ici aucune importance. Quelle est la langue qui ne comporte aucune irrégularité? Ce qui compte, c'est que la seule façon de s'exprimer correctement est de se plier à ses règles. La personne qui se soumet le mieux est celle qui se fait le mieux comprendre de ses pairs. La vérité est un bien commun. C'est facile à comprendre. Les biens privés est épuisé lorsqu'il est possédé par son propriétaire, excluant ainsi tout autre détenteur. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons bien privé. Par opposition, le bien commun se communique en tant qu'il est justement commun. De même que le fait qu'un homme parle bien ne gêne pas les autres, sinon qu'il les aide à améliorer leur manière de parler. De même, le fait qu'une personne connaisse la vérité est le meilleur moyen de diffuser celle-ci. Avec quelle profondeur de pensée Tertullien s'exclamait: la vérité n'a honte de rien si c'est d'être caché. C'est pourquoi, comme tout bien commun, elle tend à avoir un maximum d'esclaves à sauver des ténèbres de l'ignorance de l'erreur. C'est donc avec haute raison que nous appelons Jésus notre Seigneur, lui qui s'est autodéfini comme la vérité. Si nous reprenons l'exemple du langage, nous pouvons comprendre une autre différence essentielle entre la possession d'un bien privé et celle d'un bien commun. Étant donné que le bien privé est d'une essence inférieure à celle de son propriétaire, il ne lui permet pas de se surpasser. Au mieux, il le maintient dans l'être, en l'aidant à développer ses possibilités. Au contraire, étant d'une nature supérieure à celui qui les possède, les biens communs l'élèvent à un niveau supérieur à celui qu'il pourrait atteindre en tant que simple individu. C'est ainsi que les enfants loups, sauvés de la forêt, n'ont jamais pu être éduqués, ni sortis de l'état bestial dans lequel ils furent trouvés. Passé l'âge où le cerveau est capable d'assimiler la langue, l'accès à la culture et à la pensée civilisée leur est totalement impossible. Devant une telle évidence, il est inutile de sauver les enfants qui se trouvent dans de telles conditions. On préfère les laisser dans leur environnement animal. Pour résumer, c'est donc le bien commun qui nous humanise. Ce raisonnement nous conduit à la grande vérité que les libéraux sont absolument incapables de comprendre. Si la possession d'un bien privé m'empêche d'accéder au bien commun, ce bien est un mal. De telle façon qu'un bien privé n'est bon que si le bien commun lui donne cette attribution. Dans le cas contraire, est tout simplement un mal. La compréhension de cette vérité a conduit les penseurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge à ne pas tolérer les idées qui annihilaient la vérité sur laquelle reposait leur existence. Ils se sont sans doute trompés plus d'une fois sur la soi-disant vérité qu'ils défendaient ainsi. Mais ils ne faisaient pas fausse route en considérant comme un mal tout ce qu'ils opposaient au bien commun et en exigeant de leurs contemporains une totale soumission à celui-ci. Conclusion. Nous sommes maintenant capables d'essayer de comprendre la thèse soutenue par Pie VI. Illa scilicet jura religione et societati adversantia. Comme le Saint-Père n'a pas exprimé ses arguments, ce que je donnerai ici après sont miens et ne prétend pas préjuger des siens ni s'arroger une valeur qu'ils n'ont pas. Ce sont des arguments qui valent ce qu'ils valent. Chacun est libre de les évaluer. Il n'engage pas d'autre autorité que la mienne, si du moins j'ai quelque autorité dans la matière. Pour quelles raisons les voies de l'homme sont-ils en contradiction avec la société civile? Rappelons ici que le mal réside dans sa philosophie et non pas dans la liste des biens privés qu'il essaie de préserver. Le mal réside dans le fait que le bien privé n'y est pas nécessairement subordonné au bien commun, condition sine qua non pour que le bien privé puisse être considéré comme bon. Il ne suffit pas que la propriété dans l'abstrait soit un bien, parce que la propriété réelle est particulière et pourrait, dans certains cas, être un mal. Le fait de déclarer que les biens privés sont des biens sans référence au bien commun est un dérèglement grave que la société ne devrait pas tolérer. Il est bien connu que lorsqu'on crie haut et fort les mots « liberté », ainsi, dans l'abstrait, commencent à tomber des têtes bien concrètes. D'autre part, il est évident que l'individu a besoin des biens privés et que certains de ces biens sont en péril. Mais limiter l'homme à ce type de biens, c'est lui faire perdre les meilleurs. Parce que dans tout domaine, le bien commun est toujours supérieur au bien privé. Comme le signale très bien de Koenig, les personnalistes abusent généralement du Peracidens et passent d'un genre à l'autre, ce qui constitue en soi une tromperie. Certes, le bien privé surnaturel d'un seul individu est supérieur au bien naturel de tout l'univers. L'erreur réside dans la comparaison, puisque les biens privés naturels doivent être comparés aux biens naturels et les surnaturels entre eux. Dans chaque ordre, et comme nous l'enseigne saint Thomas en même endroit, les biens communs sont toujours supérieurs. Je vous invite à relire la question disputée de Caritate. Dans l'article 2, il signale que son objet propre est le bien commun. Le titre de cet article est comme si Dieu comme objet de béatitude. Et dans le chapitre 4, il précise quelle est la grande différence entre aimer les biens privés et aimer les biens communs. La charité aime les biens divins selon le mode propre d'aimer les biens communs. Saint Augustin nous enseigne que l'homme ne pêche pas pour choisir une nature mauvaise, puisque toute nature est bonne, mais pour préférer l'inférieur au supérieur. La philosophie des droits de l'homme cadre parfaitement avec cette définition du péché, puisqu'elle privilégie toujours les biens privés avant les biens communs. Mais la société existe parce que les biens communs existent. Et par conséquent, il n'y a rien de plus contraire à sa nature que cette philosophie. Depuis les proclamations, l'histoire de l'Occident n'a été qu'une suite de révolutions, ce qui est de la plus évidente logique, puisque, comme Pisis nous avait prévenu, elle se base sur une philosophie destructrice de la société. Après avoir vu les premiers aspects de la thèse du souverain pontife, passons maintenant au deuxième. Si l'on regarde avec plus d'attention la nouvelle doctrine de l'Église, quant aux droits de l'homme, telle qu'elle est développée par la Commission internationale de théologie, on comprendra avec quelle justesse Piscis les avait jugés contraires à la religion. Il faut souligner qu'il y a un mieux lorsqu'on leur quitte le caractère des droits absolus et inaliénables et qu'on les réserve à quelques-uns fondamentaux, comme l'a fait la Déclaration, nous avons vu. Malheureusement, apparaît ici les droits à la vie. Le révérend père Lira, de la congrégation des pères de Picpus, démontre que rigoureusement parlant, un tel droit ne peut exister. En effet, les droits exigent que l'on attribue à celui à qui il manque. Mais celui qui n'existe pas ne saurait exiger qu'on lui concède l'existence. Bien plus, si ces droits étaient absolus et inaliénables, la carrière des armes serait toujours immorale et la légitime défense impossible. Il est de même regrettable d'attribuer ces mêmes caractéristiques à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Grégoire XVI jugeait déjà que c'était folie et Saint-Augustin l'a qualifié de liberté de perdition dans l'encyclique Quanta Cura. Passons les détails et allons à l'essentiel. Toute la théologie que cette commission a mise au service des droits de l'homme a été formellement rejetée par saint Thomas, puisque son acceptation détruirait complètement notre sainte religion. Rappelons que la Commission internationale de théologie a basé sa nouvelle doctrine sur l'affirmation faite par le Concile, selon laquelle le Verbe éternel a assumé la nature humaine, la faisant ainsi accéder à un degré de dignité sublime. Et comme la nature est présente en tout individu, tous s'en trouvent magnifiés. Dans la troisième partie de la somme, saint Thomas analyse la question 4, l'incarnation, du point de vue de ce qui a été assumé, et il traite de cette thèse si étrange dans deux articles. Dans le premier, le numéro 4, il suppose que cette nature assumée par les vers est présente en tout individu et la nature universelle. Pour cela, elle est présente à tous. Mais, parmi d'autres raisons métaphysiques qu'il serait fastidieux d'énumérer dans ces brefs exposés, il relève très judicieusement qu'une telle nature est abstraite, qu'elle n'est donc qu'une simple idée. Par conséquent, il n'y aurait pas incarnation du Verbe, sinon une idéalisation, ou, comme le dit saint Jean Damascène, une simple fiction. Le cardinal Cajetan ajoute dans son commentaire qu'il s'agirait alors d'une action immanente. Et donc, selon cette hypothèse, il n'y aurait que simple compréhension de l'incarnation et non pas un fait nouveau dans la nature des choses. In rerum natura, dit le cardinal. Comme imaginer scier une planche n'est pas scier en vérité. Dans le second article, laissons. Saint Thomas suppose que les vers assument la nature humaine de tous les individus. Mais une telle hypothèse supprime la dignité suprême et unique du Christ, Fils de Dieu incarné, puisque cela rendrait tous les hommes égaux en dignité. De plus, cela supprimerait les personnes humaines, puisqu'en Jésus, il n'y en a pas précisément en vertu de l'incarnation. Enfin, si tout ce qui précède ne suffisait pas, cette hypothèse laisse de côté la passion rédemptrice, puisqu'il n'y aurait rien à racheter, ajoute-t-il dans sa réponse à la deuxième question. Bien qu'il ne l'affirme pas, nous osons ajouter que dans une telle perspective, le baptême n'a plus aucun rôle. Ce serait alors un acte superfétatoire. Mais il y a plus. À notre avis, cette nouvelle doctrine officielle arrive à contredire la révélation. En effet, je ne vois pas comment la rendre compatible avec les termes du prologue de l'Évangile selon saint Jean. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundum eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Aussi loin que je puisse comprendre ce texte, j'estime que l'apôtre établit une condition absolue pour devenir fils de Dieu. Il faut croire au Verbe incarné. Mais le monde ne l'a pas connu. Par conséquent, il manque d'un tel pouvoir. Il me semble réellement difficile de trouver une doctrine qui, feignant une fidélité absolue à la révélation, détruise à ce point notre sainte religion, comme nous avait prophétiquement mis en garde Pie VI de Res Mémoire. Merci pour votre attention.